Bienvenue dans cet épisode de notre podcast « Le droit dans ses bottes », une émission proposée par le cabinet d'avocats Adaltis et le moniteur des travaux publics et du bâtiment. Le droit dans ses bottes vous promène à travers la France, sur les pas d'un ou d'une avocate, en bottes de chantier donc, pour revivre un projet de construction marquant et innovant, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables, des mobilités ou de l'aménagement. Pour accompagner les idées parfois folles de leurs clients, ces hommes et femmes du droit sortent de leur caisse à outils les instruments juridiques adaptés au territoire et créent des solutions nouvelles. Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui je vous emmène en balade en Bretagne avec Lucie Pétier, survoler des toitures photovoltaïques au sein d'un réseau énergétique intelligent. Bonjour Lucie.
Bonjour Sophie.
Pour faire connaissance, Lucie, je vais vous demander de vous présenter en trois phrases.
Donc, je suis bretonne, je suis avocate depuis 9 ans, 7 ans au barreau de Paris et depuis 2 ans au barreau de Rennes. Je suis en charge du développement du cabinet Adaltis à Rennes, où je développe une expertise en droit public des affaires avec une appétence très forte pour le droit de l'énergie, le droit de l'environnement et plus particulièrement sur des questions de développement des énergies renouvelables, de cités-sols pollués et de problématiques liées à la préservation du littoral.
Et où nous emmenez-vous aujourd'hui, Lucie ?
Je vous amène au pays du soleil, de l'air marin et où très occasionnellement se présentent quelques gouttes de pluie, la Bretagne. Je vous amène dans un lieu qui m'est cher, puisque j'y ai grandi, le département du Morbihan, au sud de la Bretagne, qui, j'insiste, bénéficie d'un microclimat très envié par le reste des Bretons, bénéfique au développement des énergies renouvelables et plus particulièrement bénéfique au développement des installations photovoltaïques. Je vous conduis aujourd'hui au cœur d'une cité portuaire qui est en plein essor, en pleine mutation, qui accueille le festival interceltique et qui est engagée dans un développement très poussé des énergies renouvelables. Elle affiche des objectifs qui sont très ambitieux et qui ont pour principale mission de mettre en réseau les acteurs du domaine de l'énergie et le développement des projets opérationnels. Dans ce cadre, la ville et l'agglomération de Lorient, ils mènent notamment une politique de développement des ENR sur leur patrimoine public et s'orientent vers l'installation de centrales photovoltaïques au sol ou en toiture en autoconsommation.
Alors dans ce cadre très propice aux ENR, on l'a compris, votre cliente, une petite entreprise privée, est venue vous voir avec un projet audacieux. Quel est-il ?
Donc mon client, c'est un ancien développeur ENR qui développait des centrales photovoltaïques, qui a récemment créé une société qui porte un projet qui est ambitieux et qui s'est révélé au fil de sa construction relativement audacieux. Il s'agit de la création d'une plateforme collaborative qui consiste à proposer une alternative au système actuel de fourniture d'électricité, c'est via un marché collaboratif local et solidaire de l'énergie. C'est très beau, mais ce n'est pas très facile à mettre en œuvre. L'idée, c'est de créer une communauté énergétique qui prend naissance dès qu'un consommateur et un producteur se rencontrent. Les activités de cette société, elles vont être principalement concentrées sur des opérations d'autoconsommation collective à partir de centrales photovoltaïques. Aujourd'hui, on est au stade du POC, donc c'est un proof of concept. Donc c'est un projet qui est vraiment au stade de la simple création. Il porte sur une école, et plus particulièrement sur la toiture d'une école, sur laquelle sont déjà installés des panneaux photovoltaïques. Et à la différence des projets existants et déjà menés par d'autres collectivités, l'intérêt, c'est que l'énergie qui sera produite à partir de ces panneaux, elle n'aura pas vocation à être consommée que par cette école ou par ce bâtiment, mais l'idée, c'est d'en faire profiter les bâtiments environnants, les voisins, et qu'ils puissent eux-mêmes consommer l'énergie prévue sur ce bâtiment. Donc c'est à la fois la rencontre d'une valorisation d'un patrimoine public et une poursuite des objectifs de développement des énergies renouvelables.
On va donc parler d'autoconsommation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et quelles sont les différentes formes ?
Bien sûr, l'autoconsommation, c'est une démarche qui est émergente en France et qui est dans un cadre juridique qui aujourd'hui est en pleine évolution, en pleine création. On a deux types d'opérations d'autoconsommation. Les opérations d'autoconsommation individuelles, donc là c'est très simple, on a un bâtiment, un producteur, une centrale. Ce bâtiment consomme l'énergie qui a été produite par la centrale. Et puis des opérations un peu plus complexes, ce sont les opérations d'autoconsommation collective qui rendent possible la fourniture d'électricité entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs. Ces derniers doivent être voisins et ils sont liés entre eux par une personne morale organisatrice qu'on appelle et qu'on va appeler tout au long la PMO, qui est vraiment l'élément fédérateur et essentiel dans le cadre de ces projets. Petite précision sur ce projet, l'idée c'est vraiment de mettre en place une opération d'autoconsommation collective mais étendue. Donc on n'est pas sur les voisins, on n'est pas sur son voisin de palier mais sur le voisin en face dans la rue, on essaye d'aller dans un périmètre plus étendu. Jusqu'en 2020, le périmètre c'était un maximum, un rayon de 2 km autour de l'installation qui produisait l'électricité. Et on a une dérogation possible, sous réserve d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie, d'étendre un rayon de 20 km, ce qui permet vraiment de donner tout son sens à cette plateforme collaborative et d'essayer de développer des projets, d'amener plus de parties et d'essayer un peu de développer cette idée.
Alors pour accompagner ce projet, vous avez dû vous attaquer à toute une série de problématiques. Et la première, c'est comment créer la PMO, donc cette fameuse personne morale organisatrice.
Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, cette PMO, c'est vraiment le lien, l'élément fédérateur de cette opération d'autoconsommation. Elle a été créée pour diverses raisons, mais principalement faciliter la gestion de l'opération en identifiant une personne qui sera responsable de l'ensemble des échanges et des liens contractuels. On a plusieurs types de liens contractuels. On aura les liens contractuels avec des tiers à l'opération d'autoconsommation. Donc là, on a différentes parties tout à fait classiques. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, appelé le GRD, avec lequel la PMO elle va conclure un contrat dans lequel elle précisera le nom de chacune des parties, la consommation de chacune, une clé de répartition, somme toute très classique. Et puis, on a des contrats qui peuvent être conclus avec des fournisseurs d'électricité qui viendront prendre le relais finalement quand l'installation de production d'électricité ne produira pas suffisamment pour satisfaire l'ensemble des consommateurs sur l'opération. Là où on a une réelle difficulté, où il a fallu créer des éléments, c'est que l'objectif de cette plateforme collaborative, c'est de créer une PMO, une entité qui puisse gérer plusieurs opérations d'autoconsommation collective. Aujourd'hui, au regard des textes, ce n'est pas très clair. On n'a pas un cadre précis. Donc l'idée, c'était vraiment de trouver et de mettre en place une PMO que l'on appelle mutualisée, qui puisse gérer tous les projets, qui puisse être là et porter plusieurs opérations. Donc c'est toute la nouveauté de ce projet, puisqu'on n'a pas de cadre vraiment défini, on n'a pas d'identité vraiment définie, on n'a pas non plus d'entité vraiment définie pour les porter. Donc il a fallu créer de bout en bout le projet pour mettre en place cette PMO.
Alors après, deuxième défi, il a fallu imaginer comment tisser les liens contractuels entre les parties et en gardant une certaine souplesse afin d'assurer l'attractivité du dispositif.
On a une règle qui est relativement universelle. On est dans un nouveau. L'idée, c'est de créer un nouveau mode de consommation, local, solidaire. Ça demeure un nouveau mode de consommation. Donc, il faut le rendre attractif. Il faut que des consommateurs et des producteurs, parce que les producteurs, ils ont aussi leur business model, il faut que tout le monde s'y retrouve. Il faut que ce soit facile d'entrer dans cette opération. Et du coup, il a fallu mettre en place des outils contractuels, comme je vous l'ai dit, qui n'étaient pas très bien définis, pour permettre une entrée, une sortie de chaque participant. Donc on a des outils contractuels qui étaient plus simples à mettre en place, dont on vient de se parler, c'est les outils avec les fournisseurs d'électricité et avec le GRD. Là où a été le cœur du problème, c'est quel était le contrat, quelle forme allait-il prendre et comment réussir à organiser tous les liens entre une PMO, un producteur et un consommateur, sachant, comme on l'a précisé, l'idée c'est que la PMO, ce soit vraiment l'entité et la société non client qui la porte, donc il fallait réussir à rendre attractif ce projet en permettant de donner quelques outils aux consommateurs et aux producteurs pour qu'ils puissent, sans être actionnaires de cette société ou sans être membres de cette société, en être quand même acteurs pour faire évoluer le contrat. Donc là, dans ce cadre, on a mis en place un contrat qu'on peut appeler type ou contrat cadre avec l'ensemble des éléments. Donc on a des éléments généraux, des éléments qui seront plus particuliers à chaque participant pour essayer d'identifier clairement chaque partie, définir surtout ce qui est important, c'était la définition des règles de gouvernance, comment est-ce que l'on mettait en place les modalités de prise de décision? Est-ce qu'on avait un comité? Est-ce qu'il y avait un comité de consommateurs, un comité de producteurs? Comment est-ce que les parties communiquaient entre elles? Quelles décisions étaient soumises à l'ensemble des parties ou quelles décisions étaient finalement déléguées à la PMO?
On a commencé notre balade sur le toit d'une école. Le premier projet concerne un bâtiment public. Et comment, dans ce cadre, articuler l'opération avec les règles de la commande publique?
Là, dans ce cadre, le projet était déjà complexe, mais on est venu amener un degré de complexité supérieur, puisque lorsque l'opération concerne une collectivité, nécessairement, il faut s'interroger sur la mise en place des règles de la commande publique, comment les faire intervenir. Il y a eu deux principaux éléments à prendre en considération. D'une part, lorsque l'installation était posée sur un bâtiment public, mais que le producteur, ce n'était pas la collectivité, donc forcément, la collectivité qui utilisait l'énergie produite, il fallait qu'elle achète cette énergie produite. Généralement, on passe par un contrat de fourniture d'électricité. Donc là, maintenant, il fallait savoir si, au regard des montants, qui en plus pouvaient évoluer dans le temps, puisque forcément, plus on a d'opérateurs, plus on a de consommateurs, plus les montants vont pouvoir évoluer, comment réussir à être conforme aux règles de la commande publique, quelles doivent être les procédures qui peuvent être mises en place, est-ce qu'on est tenu à des règles de mise en concurrence et de publicité, et le deuxième aspect, c'est bien sûr l'occupation du domaine, comment est-ce que cela se formalise, est-ce qu'on passe par des contrats de concession, quel montage, des baux, des autorisations d'occupation, et nécessairement ces points sont très importants parce que ils apportent une certaine lourdeur ou une complexité au projet. Et quand on est dans un projet, quand on passe par une plateforme, c'est des projets qui ont vocation à aller très vite. On accepte, on rentre, on sort. Forcément, si on alourdit par des règles de mise en concurrence, on allonge d'autant plus les délais d'exécution.
Et en quoi ce dossier est-il original? En quoi vous a-t-il marqué?
À mon sens, ce dossier est original sur deux points. D'une part, on a un cadre juridique qui est en pleine construction, donc qui peut vous remettre en cause à tout moment, parce que c'est arrivé. On a des éléments ou des textes qui ont été adoptés, qui ont remis en cause certains acquis. Donc il faut revoir les montages, il faut y réfléchir, il faut évoluer avec les montages. Donc ça a été un vrai challenge et parfois une vraie difficulté qui, heureusement, nous a été très favorable, mais ça ne sera pas toujours le cas. Et on sait qu'il y a encore des textes qui arrivent, donc ça peut apporter une difficulté en cours de construction quand on est très proche, mais ça peut venir apporter une difficulté. Et puis dans ce projet, on a vraiment eu la rencontre de deux mondes, le technique et le juridique. Un entrepreneur plein d'idées, avec un très beau concept, des très belles idées, une envie d'aller vite, de faciliter les choses, de permettre à des consommateurs d'accéder à une nouvelle énergie, et une avocate qui a très rapidement listé l'ensemble des obstacles qui allaient se situer sur le chemin, l'ensemble des difficultés qu'il allait falloir surmonter, les évolutions à apporter au projet qui n'étaient pas toujours très bien comprises. Donc ça a été vraiment une collaboration qu'il a fallu mener du début à la fin.
Et ce projet est innovant. Est-ce qu'il pourrait donner des idées à d'autres? Dans quelle mesure peut-on le reproduire ailleurs?
Alors oui, c'est un projet qui pourrait être facilement reproduit, puisqu'une fois qu'on aura un cadre un peu plus stabilisé et des relations contractuelles un peu plus stabilisées, ça pourra se reproduire partout, même au sein de régions qui ne disposent pas d'autant d'ensoleillement que la Bretagne, mais ça se fait relativement facilement. Et puis, il faudra toutefois être vigilant, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des évolutions législatives et réglementaires qui peuvent venir impacter le caractère reproductible de ce projet. Et c'est un projet qui a donné lieu à d'autres réflexions. On n'est pas les seuls à avoir eu cette réflexion. On a aussi la région Bretagne et la région Pays de la Loire qui mènent aussi une réflexion sur ce type de projet, sur la mise en place de ce type de PMO mutualisé, de la même manière pour essayer de valoriser le patrimoine public tout en essayant d'atteindre ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.
Avant de terminer cette balade en Bretagne, dites-nous, Lucie, le droit dans ses bottes, à quoi ça vous fait penser?
Pour moi, ça me fait penser, on s'éloigne très loin de l'image de l'avocat classique que l'on voit avec ses codes, dans sa bibliothèque, en train de faire ses recherches. Là, il faut aller plus loin que ça. À mon sens, il faut chausser ses bottes, ses baskets, ses talons, connaître le territoire, relever ses manches, aller sur site, comprendre les enjeux, comprendre le territoire où on est, et comprendre les aspects techniques, parce qu'on ne peut pas discuter et trouver des solutions si on ne comprend pas vraiment quels sont les aspects techniques et territoriaux importants dans le cadre de ces projets. Donc c'est vraiment une idée de, il faut être sur site, il faut s'impliquer, et c'est pas dans nos textes qu'on trouvera toutes les solutions.
Merci Lucie. Le droit dans ses bottes, c'est fini pour aujourd'hui. Nous remettons maintenant nos souliers de ville. À bientôt avec Adaltis et le Moniteur.
Au revoir.